Mélissa. À demain, on va accueillir, comme il se doit, notre invité du jour, Michel Favret. Bonjour, bienvenue à Oudo Radio.
Bonjour, Joël.
Alors, c'est vrai, Michel, on avait l'habitude de vous voir le mercredi.
Voilà.
Mais là, ce n'est pas un reproche, hein, attention. Hein. Donc là, on se voit un lundi, puis votre actu, hein, avant de rentrer dans la chronique numéro 30, hein, des coups de gueule hein, cette semaine.
Voilà.
Enfin, pour ce mois-ci, hein, vu qu'on a l'émission mensuelle. Exactement. On attaque ou vous voulez en dire quelques mots avant de présenter votre chronique ? Comme vous voulez.
Non, on peut démarrer.
Allez, c'est parti pour cette 30e chronique astro de Michel Favret sur Eudo Radio.
Alors, pour commencer, nos auditeurs ont peut-être entendu parler du fameux astéroïde qui devait frapper la Terre le 16 février et provoquer une énorme catastrophe. Alors, on peut constater que le ciel ne nous est pas encore tombé sur la tête. Hein, c'était le titre d'une
chronique
que j'avais faite il y a quelques temps. Cette annonce fracassante est faite par un astronome russe avait de quoi inquiéter, car l'astéroïde dont il était question existe réellement et il est bien géocroiseur, c'est-à-dire qu'il s'approche parfois de la Terre et il ferait, d'après les estimations, entre 500 et 1 km en taille. Ce qui veut dire que sa chute sur Terre provoquerait effectivement une catastrophe à l'échelle d'un continent, voire de la planète entière. Rappelons que celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures il y a environ 65 millions d'années, et on oublie parfois, mais environ 80% de toutes les espèces vivantes sur la Terre et dans les mers, faisait seulement dans les 10 km. C'était donc une montagne grande comme l'Everest à peu près, des centaines de milliards de tôles, qui nous a percuté à une vitesse énorme, des dizaines de milliers de kilomètres heure, ce qui a dégagé une énergie gigantesque, lors du choc. Pour fixer les idées, c'est de l'ordre de 1 milliard de bombes atomiques, comme celles que les Américains ont lancées sur Hiroshima en 1945. Si on revient à notre astéroïde de février 2017, qui porte l'immatriculation 2016 WF9. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur la façon dont sont numérotés ces petits corps du système solaire. 2016 signifie qu'il a été découvert pendant l'année 2016. W correspond à la quinzaine dans l'année. Hein. A va du 1er au 15 janvier, B du 15 au 21 janvier, etc. On voit donc que cet astéroïde a été détecté plutôt récemment, pendant la deuxième quinzaine de novembre. Et la dernière partie du numéro, F9, donne le numéro d'ordre de la découverte dans la quinzaine, en commençant par A jusqu'à Z, sauf le I, hein, qu'on ne prend pas à cause du risque de confusion avec le chiffre 1. Puis si ça ne suffit pas, de A1 jusqu'à Z1, puis A2 jusqu'à Z2, etc. Donc si je calcule correctement, F9 signifie que c'était le 231e astéroïde découvert pendant seulement cette quinzaine. Cela donne aux auditeurs une idée du rythme auquel on détecte ces petits corps avec les moyens modernes. Pour avoir pratiqué ce sport en équipe au pic du midi, je peux dire qu'il faut faire très vite la déclaration d'une possible découverte, car ça se joue parfois à quelques minutes pour être l'inventeur d'un astéroïde ou se faire griller la politesse par un autre observateur. On dit inventeur comme pour les archéologues. Ces déclarations se font par mail auprès du MPC, le Minor Planet Center, qui est la référence mondiale pour tout ce qui concerne les petits objets du système solaire, astéroïdes et comètes, et qui gère une base de données en dénombrant plus de 900 000. D'ailleurs, si on veut se faire peur, on peut trouver sur leur site web une carte indiquant en temps réel leur position dans le système solaire, ce qui donne une grosse zone verte entre Mars et Jupiter où se tiennent sagement la plupart des astéroïdes, mais aussi un nuage de points rouges d'une densité impressionnante, chaque point rouge représentant un petit objet géocroiseur, c'est-à-dire coupant parfois l'orbite de la Terre. En voyant les cartes, on pourrait avoir l'impression d'être en plein milieu d'un stand de tir, mais il faut se rappeler que les échelles de distance sont énormes dans le système solaire, et deux petits points qui semblent se toucher sur la carte sont en réalité distants de centaines de milliers ou de millions de kilomètres. La Terre se déplace donc plutôt dans un désert, dans lequel on s'approche de temps en temps d'une montagne. Quand j'ai appris l'annonce de la catastrophe imminente début février, je suis donc allé simplement consulter le MPC pour en savoir plus sur l'astéroïde 2016 WF9. Et j'ai utilisé un des services du site qui permet de demander de calculer un tableau des positions de l'objet sur une période de temps donnée. J'ai demandé jour après jour sur tout le mois de février et j'ai été plutôt surpris du résultat. Non seulement ce n'était pas le 16 février qu'il serait le plus proche de la Terre, mais le 25 et à une distance respectable de environ 51 millions de kilomètres, soit à peu près la distance qui nous sépare de la planète Vénus quand son orbite l'amène au plus près de nous. Donc pas de souci à se faire pour une éventuelle collision. Mais bien sûr, les complotistes de tout poil diront que les données du MPC sont fausses, car la NASA et le gouvernement américain ne veulent pas affoler la population avant une catastrophe inévitable, telle ce que j'ai pu voir sur certains sites internet. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de catastrophe, ni le 16 février, ni le 25.
Alors Michel, justement, pourquoi cette fausse annonce? Comment l'astronome russe a-t-il bien pu se tromper?
Eh bien c'est très simple, il s'agit juste d'un effet médiatique. Comme il faut toujours être le premier à diffuser un scoop, les médias ont pris pour argent comptant une prévision qui avait été faite bien trop tôt. Comme je l'ai dit, l'astéroïde a été découvert en novembre, d'ailleurs par un programme de recherche automatique qui s'appelle NEOWISE. NEO signifiant en américain Near Earth Object, c'est-à-dire objet approchant de la Terre, ou géocroiseur pour faire plus simple. On voit donc que le système fonctionne car il a bien détecté cet astéroïde. Comme le font les amateurs qui chassent les astéroïdes, ces télescopes photographient la même portion de ciel de manière répétitive à quelques dizaines de minutes d'intervalle. Sauf qu'ils le font d'une façon industrielle, parcourant automatiquement de grandes parties du ciel et revenant régulièrement dans l'année. Ensuite, un ordinateur analyse les images pour détecter tout point lumineux qui se déplace d'une photo à l'autre. Les étoiles étant fixes dans le ciel, seuls les objets du système solaire se déplacent sur les photos. Planètes, astéroïdes, satellites ou comètes. Une fois vérifié dans les bases de données du MPC que ce n'est pas encore déjà connu, on suspecte un nouvel objet et on lance une alerte à la communauté des astronomes pour faire de nouvelles observations dans les jours et les semaines qui suivent. Il est facile de comprendre que lorsqu'on n'a que quelques points sur des photos représentant sa position sur quelques heures ou quelques jours, donc à tout petit bout de son orbite, il est très difficile de connaître sa trajectoire avec précision. Et on ne pourra améliorer les calculs qu'en faisant de nouveaux relevés sur une période bien plus longue, affinant de plus en plus la connaissance de son mouvement. Et voilà ce qui s'est passé pour 2016 WF9. Après 3 jours d'observation, il a été signalé comme un objet dangereux, car sa trajectoire le faisait s'approcher de la Terre, même si les calculs ne prédisaient aucun risque de collision avant 2029. Mais la marge d'erreur était encore grande. Et c'est comme cela qu'en décembre, une rumeur a pu naître sur son éventuelle collision prochaine, alors que dès le 20 décembre, le MPC l'a retiré de la liste des objets dangereux. Après plus de 3 mois d'observation, son orbite est aujourd'hui bien mieux connue, et on a pu calculer qu'en 1944, par exemple, il est passé 2 fois plus près de la Terre que cette année, dans les 28 millions de kilomètres à peu près. Pour illustrer à quel point les calculs d'orbite sont incertains quand on a peu d'observations, les premières estimations après 3 jours donnaient une période, c'est-à-dire le temps pour faire un tour complet sur son orbite, d'environ 7 ans et demi, alors qu'aujourd'hui les calculs plus précis donnent un peu moins de 5 ans. On voit donc bien qu'il y a une grosse variation. En résumé de cette affaire, à vouloir parler trop vite, on annonce souvent de grosses bêtises, et ce n'est pas qu'en astronomie bien sûr.
Alors Michel également, mais quel est le risque d'une collision d'un astéroïde avec la Terre ?
Alors en fait, il est impossible à évaluer correctement car l'astéroïde le plus dangereux est celui que l'on ne connaît pas encore. On peut juste faire des statistiques. Sur les 60 à 100 000 tonnes qui tombent sur la Terre chaque année, la plupart sont des tout petits graviers ou grains de sable qui donnent des étoiles filantes en se consumant dans la haute atmosphère sans jamais atteindre le sol. Je crois qu'on estime à 3 cm environ, donc un peu moins qu'une balle de ping-pong, la taille minimum pour qu'un petit débris arrive jusqu'au sol. Les gros morceaux qui donnent de belles météorites qu'on retrouve dans les déserts sont plus rares. Ceux gros comme des voitures ou des maisons, encore plus. Tous les 100 à 1000 ans, apparemment, ils frapperaient la Terre à peu près, comme le bolide qu'on a pu voir illuminer le ciel de Tcheliabinsk le 15 février 2013. Le précédent, gros de cette taille, remontait sans doute à l'explosion au-dessus de la Tunguska qui s'est produite en 1908. Et ainsi de suite, plus c'est gros, plus c'est rare. L'estimation pour des astéroïdes de 10 km, donc avec une catastrophe comme celle des dinosaures, est une moyenne d'un tous les 100 à 500 millions d'années environ. Le problème avec les statistiques et les moyennes, c'est que ça n'a aucun caractère prédictif. Si c'est un tous les 100 millions d'années en moyenne, il peut se passer 300 millions d'années avant qu'il en retombe un, puis un autre seulement quelques années après, ou même à quelques jours ou heures d'intervalle seulement. Comme j'ai l'habitude de le dire aux élèves après les séances de planétarium quand on aborde cette question, l'astéroïde le plus dangereux pour l'humanité, c'est celui qu'on ne connaît pas encore et qui va nous frapper dans 3 jours, ou peut-être 1 heure, ou peut-être dans 15 secondes. Avec le système de détection que j'ai décrit, on ne peut trouver des astéroïdes que sur des photos qu'on fait la nuit. Si un astéroïde nous approche en venant du côté du Soleil, on ne peut pas le voir arriver, et il pourrait frapper la Terre avant même qu'on ne connaisse son existence. Ce n'est pas théorique, ce que je raconte là. Assez souvent, on découvre un nouvel astéroïde et en calculant son orbite, on constate qu'il a frôlé la Terre, bien sûr à l'échelle astronomique, quelques jours ou semaines auparavant. Alors, pour donner des exemples récents, le 9 janvier vers 14h, 2 jours après sa découverte, 2017 AG13 est passé à environ 200 000 km de la Terre, soit à peu près la moitié de la distance Terre-Lune. Et le 25 janvier vers 6h, 5 jours après sa découverte, 2017 BX nous a frôlé à environ 260 000 km. On n'en a pas parlé dans les médias car ils étaient assez petits, moins de 40 mètres à peu près. Mais s'ils avaient chuté sur Terre, ils auraient quand même pu détruire toute une région ou provoquer un énorme tsunami en tombant dans un océan. Pour conclure sur cette question du risque, il faut faire confiance aux calculs du MPC pour prédire les trajectoires des astéroïdes connus et nous alerter à l'avance si un risque important se présente. Et il vaut mieux ne pas trop se préoccuper de la chute d'un astéroïde encore inconnu, car si elle se produit dans 15 secondes ou quelques heures, on ne pourra rien y faire. Et si c'est pour dans quelques millions d'années ou même seulement dans un siècle, cela ne nous concerne pas vraiment. Par contre, il faut être conscient que c'est un risque majeur pour l'avenir de l'humanité qui ne s'en sortirait probablement guère mieux que les dinosaures.
Et la NASA qui se fait de la pub sur le dos des Européens, qu'en pensez-vous ?
Ah oui, alors, comme tout le monde, j'ai entendu la nouvelle fracassante mercredi soir. La NASA venait de découvrir un système de 7 exoplanètes ressemblant à la Terre et orbitant autour d'une étoile proche, hein, c'est relatif, c'est environ 40 années-lumière, dans la constellation du Verseau. D'ailleurs, comme à son habitude, elle avait annoncé cette révélation quelques jours à l'avance pour bien faire monter la mayonnaise médiatique. J'ai déjà dit ici que les Américains étaient très forts pour ces coups de com', qui surviennent d'ailleurs souvent, comme par hasard, au moment où les autorités discutent de leur budget de recherche. Mais là, ce n'est plus un coup de pub, c'est purement et simplement un mensonge. Pas au niveau de la découverte. On a bien découvert ce système de 7 exoplanètes. Mais au niveau de la paternité de cette découverte. La NASA n'y est presque pour rien, car ce sont en fait des Européens qui ont trouvé ce système et qui ont publié un article à son sujet dans la revue Nature. Et comme tout le monde, je me serais fait berner si je n'avais pas entendu l'entretien avec Franck Celsis de l'Observatoire de Bordeaux, co-auteur de l'article, dans l'émission « La tête au carré » de France Inter mercredi. Remettons donc les choses au clair. Ce sont des astronomes de l'Université de Liège, en Belgique, qui sont à l'origine d'un projet mené en coopération avec d'autres Européens, dont des Français et des Suisses, donc une majorité de francophones. Ce projet se nomme Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope, ce que l'on pourrait traduire à peu près comme petit télescope pour la recherche de transit de planètes et de planétésimaux, mais comme les Belges ne manquent pas d'humour, cela donne surtout l'acronyme TRAPPIST, en référence aux fameuses bières belges, bien sûr à consommer avec modération.
Je confirme. Allez, en quoi consiste ce projet, Michel ?
Alors, j'ai déjà parlé ici de la recherche des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil, pour laquelle il existe plusieurs méthodes, dont celle des transits. Alors, petit rappel, quand on a la chance que l'orbite de l'exoplanète la fasse passer entre nous et son étoile, on peut la détecter en mesurant la lumière qui nous provient de l'étoile, car le passage de la planète, comme un petit disque d'ombre masquant partiellement le limbe lumineux de l'étoile, provoque une baisse temporaire de son éclat, un peu comme une mini-éclipse. Cette méthode a notamment été utilisée par des télescopes spatiaux comme Koro de l'ESA, hein, les Européens, ou Kepler de la NASA, qui ont ainsi pu détecter des milliers d'exoplanètes. Il y a deux particularités au projet TRAPPIST. Tout d'abord, il utilise des petits télescopes de 60 cm de diamètre et basés au sol. Pour des instruments professionnels, c'est plutôt petit, mais beaucoup d'astronomes amateurs aimeraient en avoir un de cette taille. J'ai dit des télescopes car il y en a deux, un dans l'hémisphère nord, au Maroc, et un dans le sud, au Chili, afin de pouvoir observer n'importe quelle région du ciel. La découverte du système TRAPPIST-1, annoncé mercredi dernier, a été faite avec celui du sud, situé à l'observatoire de La Silla, au Chili, un des sites de l'ESO. L'ESO, c'est European Southern Observatory, qui est une organisation européenne. L'autre particularité du projet est le choix des cibles. Si on a commencé la recherche des planètes autour d'étoiles ressemblant un peu au Soleil, ce qui est logique au départ, hein, puisqu'on savait qu'il y avait des étoiles autour du Soleil, de chercher autour d'étoiles qui lui ressemblent, cette équipe, elle, surveille des étoiles très différentes, des naines ultra-froides. Ce sont des très petites étoiles en taille. TRAPPIST-1, bien entendu baptisé ainsi après la découverte du système, est à peu près de la taille de Jupiter et n'a que 8% de la masse du Soleil. Si on le mettait à la place du Soleil, les planètes découvertes orbiteraient en fait à l'intérieur de l'orbite de Mars. Le système ressemble donc presque plus à Jupiter et ses satellites qu'à notre système solaire, qui en comparaison est énorme.
Mais pourquoi rechercher les planètes autour de si petites étoiles ?
Alors c'est justement le choix délibéré du projet TRAPPIST pour avoir un maximum de chances de trouver des petites planètes rocheuses comme la Terre. Tout d'abord, il semble logique qu'une petite étoile produise des planètes de plus petite taille. Dans notre système solaire, l'étoile Soleil représente 99,98% de toute la masse. Les planètes en représentent donc une toute petite fraction de l'ensemble. Il serait assez difficile à une étoile comme TRAPPIST-1, d'environ 8% de la masse du Soleil, de produire une planète aussi massive que Jupiter, qui représenterait alors 1% de sa masse. Pour les transits aussi, une petite étoile permet une détection d'une petite planète plus facilement. On le comprend bien en prenant comme exemple notre système solaire. Si des extraterrestres observent notre Soleil pour y détecter un transit de planète et qu'ils ont la chance que Jupiter passe juste devant, ce qui ne se produit que tous les 13 ans environ, ils pourraient constater une baisse de luminosité d'à peu près 1%. Mais si c'est la Terre qui passe entre eux et le Soleil, ce qui arrive tous les ans, la baisse de luminosité ne serait que de 0,01%, c'est-à-dire 1/10 millième. C'est tout simplement la portion du limbe solaire que masque la planète, en s'interposant devant. Il est donc beaucoup plus difficile de détecter une petite planète rocheuse comme la Terre qu'une géante gazeuse comme Jupiter si on observe une étoile comme le Soleil. Mais si on s'intéresse à des plus petites étoiles comme TRAPPIST-1, à peu près de la taille de Jupiter, Le transit d'une planète comme la Terre représente une baisse de 1% de sa luminosité, donc a priori plus facile à détecter. Mais ce n'est pas tout à fait aussi simple que cela, car elles sont aussi beaucoup moins lumineuses. TRAPPIST-1 n'a que 0,05% de la luminosité du Soleil. C'est une catégorie d'étoiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, appelée naines ultra-froides, qui comprend à la fois des petites étoiles dites naines rouges, qui ont démarré des réactions de fusion nucléaire en leur centre comme le Soleil, que des étoiles trop petites pour avoir pu le faire, leur cœur n'ayant jamais atteint une densité et une température suffisantes. Et on les appelle des naines brunes. La faible luminosité est un handicap pour leur observation. Mais selon les initiateurs du projet TRAPPIST, ce serait un atout pour les futures études de l'atmosphère des exoplanètes qui transitent devant elles. Aujourd'hui, sur un système comme TRAPPIST-1, on connaît surtout la taille, la densité et les orbites des planètes qui le composent. Un point important pour ce système, c'est que 3 des 7 planètes rocheuses découvertes se situent dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. C'est-à-dire qu'elles sont à la bonne distance de leur étoile pour pouvoir présenter de l'eau liquide à leur surface. Plus près, c'est trop chaud, il ne peut y avoir que de la vapeur. Plus loin, c'est trop froid, il ne peut y avoir que de la glace. Si on veut un jour en savoir plus, il faudra étudier leur atmosphère avec des télescopes plus puissants, comme le futur télescope spatial JWST que la NASA doit mettre en orbite l'an prochain, ou le futur télescope géant IELT de presque 40 mètres de diamètre que l'ESO prévoit de mettre en service au Chili en 2024. En observant la différence entre le spectre de l'étoile seule et lorsqu'une fraction de sa lumière traverse l'éventuelle atmosphère de la planète en transit, on pourra connaître sa composition. Donc par exemple, y détecter de la vapeur d'eau, de l'oxygène, dont on sait que sur la Terre il a été produit par la vie, les algues et les végétaux, ou peut-être des marqueurs encore plus déterminants de la vie, comme par exemple de la chlorophylle. Cette analyse de l'atmosphère de la planète sera plus facile si elle passe devant une étoile plus petite, donc avec une plus grosse part de la lumière de l'étoile qui la traverse, et si la luminosité de l'étoile n'est pas trop forte, ce qui révélera mieux l'altération par la planète. C'est donc ce choix qu'ont fait délibérément l'équipe à l'origine du projet TRAPPIST d'observer des petites étoiles.
Alors finalement, qu'est-ce que la NASA a à voir avec cette découverte ?
Alors, une fois que le petit télescope de TRAPPIST a découvert ces planètes, pour en avoir des caractéristiques plus précises, l'équipe a besoin d'utiliser des télescopes plus gros et a demandé des observations avec des télescopes de l'ESO, dont le fameux VLT, un des plus grands télescopes du monde. Mais ils ont aussi sollicité une coopération de la NASA avec un de ces télescopes spatiaux, le télescope Spitzer, qui était nommé ainsi en hommage à un astrophysicien américain, qui ne fait seulement que 85 cm de diamètre, mais observe dans l'infrarouge, ce qui est bien adapté pour les naines ultra-froides qui émettent dans ces longueurs d'onde. Et c'est d'ailleurs dans ces longueurs d'onde aussi que les télescopes TRAPPIST font leurs observations. Donc la NASA a bien participé à cette découverte, mais elle n'est en rien à la tête du projet TRAPPIST, piloté par l'Université de Liège, et le fait de s'attribuer sa paternité dans les médias est pour le moins excessif et relève d'une mauvaise foi certaine. C'est ni plus ni moins qu'un hold-up médiatique. Et pour compléter le volet médiatique de cette annonce, un dernier point qui me hérisse le poil à chaque découverte d'exoplanète, c'est l'interprétation fréquente de la zone d'habitabilité en planète peut-être habitable que font certains médias peu précis et qui dérive facilement sur l'idée qu'on pourrait aller s'y installer. Le système TRAPPIST-1 étant situé à 40 années-lumière de nous, je rappelle que l'engin le plus rapide qu'on a jamais envoyé, la sonde New Horizons, qui a approché Pluton à l'été 2015, mettrait environ 1 million d'années pour l'atteindre. Donc c'est pas vraiment à notre portée.
Allez, deuxième partie de votre chronique, Astronomie et Imaginaire, et on va parler de sortie de livres, Michel.
Voilà. Pour une fois, je vais évoquer une autre de mes activités. À côté de l'animation du planétarium et des autres travaux au sein de l'association Constellations et Galaxies, dont les chroniques mensuelles sur O2 Radio d'ailleurs, et des observations en tant qu'astronome amateur que je fais avec mon club Astro 24 du Mussidanais, j'écris des petits textes quand je trouve un peu de temps, des nouvelles dans le domaine de la science-fiction ou du fantastique. Je l'évoque aujourd'hui car c'est un peu mon actualité. Ces dernières semaines, début février, j'ai eu la satisfaction de voir mes deux premiers recueils publiés. On peut les trouver auprès de différents distributeurs en ligne ou les commander en librairie ou même directement auprès de l'éditeur qui s'appelle Edilivre. L'un est intitulé « La transition d'Edward Carter » et c'est du fantastique, donc je n'en parlerai pas dans cette chronique consacrée à la science. L'autre est un peu plus en rapport avec l'astronomie et la conquête spatiale et s'intitule « Stupid Design ». Un détail qui a son importance, si les auditeurs ont envie de le chercher, il ne faut pas faire la recherche sur mon nom, Michel Favret, car j'utilise un nom de plume pour les signer. Je pourrais vous en dire plus si vous m'invitez un jour pour parler plus de cette occupation d'auteur amateur. Le titre Stupid Design fait référence à la principale nouvelle de ce recueil, dont le sujet est l'Intelligent Design, un courant de pensée malheureusement trop répandu, selon moi, chez les astrophysiciens, notamment américains. Mais c'est de la première nouvelle, intitulée Le Signal, qui ouvre le recueil, dont j'aimerais dire un petit mot, car elle est justement en rapport avec les transits d'exoplanètes dont je viens de parler. D'ailleurs, j'ai mis en couverture du livre une photo que j'ai prise en 2004, lors du transit de Vénus devant le Soleil, et qui montre le petit disque noir de la planète devant le limbe brillant de notre étoile. L'idée de cette histoire m'est venue il y a quelques années lorsque je me suis intéressé au transit d'exoplanètes, au point de faire moi-même une courbe de luminosité d'une étoile avec mon petit télescope et un appareil photo numérique. Alors ça n'a rien d'un exploit, hein, car avec une baisse record de plus de 3%, hein, cette étoile que j'ai observée, l'observation de ce transit est à la portée de tout astronome amateur correctement équipé pour la tenter. À l'époque, j'avais dû m'intéresser un peu plus aux courbes de lumière produites par ces transits pour voir si ma mesure était à peu près correcte. Ces courbes ont une forme typique en U et correspondent très bien aux simulations que l'on peut faire sur ordinateur en calculant la luminosité d'un disque brillant, l'étoile, petit à petit partiellement occulté par un disque noir, la planète. Le fond du U est pratiquement horizontal puisque c'est la luminosité presque constante pendant toute la durée du passage du petit disque noir complet devant l'étoile. Mais les courbes de descente et de remontée sont typiques de son entrée et de sa sortie progressive du limbe lumineux de l'étoile. Et je m'étais pris à imaginer que des formes géométriques différentes, par exemple comme un carré ou un triangle, produiraient des courbes différentes, qu'il serait possible de distinguer. À partir de là, je pouvais commencer à inventer qu'une civilisation pourrait ainsi signaler son existence à toutes les autres situées dans la même galaxie, et même très loin, à des centaines d'années-lumière, et c'est ça qui a fait la base de ma nouvelle. Pour le moment, je précise quand même que ce n'est techniquement pas possible pour l'humanité, car il faudrait mettre en place sur une orbite autour du Soleil des formes qui auraient des dimensions énormes, de l'ordre de 100 000 km de côté, et nous ne sommes pas en mesure de le faire, même si on les produisait par des sortes de nuages de petits masques souples, par exemple des feuilles synthétiques très fines mais opaques, comme les couvertures de survie. Comme je m'impose que les bases scientifiques de mes récits de science-fiction soient correctes, j'ai pris la précaution de vérifier sur Internet que je ne me trompais pas en pensant que des formes géométriques différentes donneraient des courbes de lumière assez différentes pour être distinguées du transit naturel d'une exoplanète et ainsi nous donner la certitude que c'était bien, que ce serait bien une construction d'un signal artificiel. Et comme je l'ai souvent constaté en faisant des recherches pour mes petites histoires, la réalité dépasse la fiction. Alors bien sûr, on n'a pas encore observé des transits bizarres de ce genre, hein, sinon on aurait certainement eu droit à une annonce tonitruante de la NASA. Mais j'ai constaté que mon idée avait déjà été envisagée par d'autres, notamment Luc Arnold de l'Observatoire de Haute-Provence, et qu'on estimait que cela pourrait être une nouvelle piste de recherche pour le SETI.
Alors l'acronyme SETI, justement, dites-nous en plus.
Alors SETI, c'est Search for Extraterrestrial Intelligence, que l'on peut traduire par recherche d'une intelligence extraterrestre. Ce projet américain remonte aux années 60 et a notamment été soutenu par le célèbre astronome Carl Sagan. C'est lui qui avait aussi proposé de mettre des informations sur les sondes qu'on envoyait hors du système solaire, d'abord les pionniers, puis les voyageurs. Ce qui permettrait peut-être un jour à une civilisation extraterrestre qui récupérait ces engins de savoir à quoi ressemblait la race qui les a construits et envoyés, hein, il y a une silhouette humaine dessus, dans l'espace, ainsi que d'y trouver des indications pour situer le Soleil dans la galaxie et la Terre dans le système solaire, il y a une espèce de carte pour se repérer. En partant de la même hypothèse qu'il doit y avoir de la vie ailleurs dans la galaxie, et même jusqu'à des races intelligentes ayant développé des civilisations culturellement et technologiquement avancées comme nous, voire même plus que nous, SETI est le principe inverse, essayer de capter des signaux que ces extraterrestres nous enverraient. Bien sûr, ce serait plus facile s'ils avaient eu l'idée d'envoyer des signaux très puissants et suffisamment bien codés pour qu'on les capte facilement, puis qu'on les distingue sans ambiguïté des signaux naturels que nous envoient les étoiles ou d'autres objets du cosmos. Mais cela n'est pas nécessaire, car s'ils utilisent comme nous des ondes radio pour leur communication, hein, la radio, la télé, les échanges avec les satellites par exemple, ces ondes se propagent dans l'univers tout autour de leur planète et de plus en plus loin au fur et à mesure que le temps s'écoule. Si l'on prend notre cas, l'humanité a commencé à utiliser des communications basées sur les ondes électromagnétiques au début du XXe siècle avec ce qu'on appelait la TSF, hein, la télégraphie sans fil, ancêtre de la radiodiffusion, qui a véritablement commencé pendant la guerre 14-18, et comme ces ondes se propagent à la vitesse de la lumière, elles forment comme une immense bulle sphérique dans l'espace qui a déjà atteint de très nombreuses étoiles, donc des systèmes planétaires, se comptant par en dizaines de milliers, puisque c'est dans un rayon de 100 années-lumière qui a déjà été parcouru. Et nos émissions de télé, hein, si on prend quelque chose de plus récent, même les plus anciennes sont déjà parvenues à plus de 60 années-lumière de la Terre. Le problème, c'est que pour détecter ces émissions involontaires d'une autre civilisation, il faut utiliser de très grandes antennes, car le signal est très faible et s'affaiblit de plus en plus en s'éloignant de sa source. Pour ceux qui connaissent ce film de 1997, c'est bien illustré dans « Contact » avec Jodie Foster, où l'on assiste à une première détection réussie d'un grand radiotélescope américain, puis l'utilisation de l'immense antenne d'Arecibo située à Porto Rico, un site que l'on peut voir aussi dans d'autres films, comme par exemple GoldenEye de la série James Bond. Un autre problème, c'est qu'on ne sait pas sur quelle fréquence il faut se régler, car les émissions peuvent utiliser une très large plage. Pour prendre une illustration simple, ce serait idiot de chercher à capter O2 radio en grandes ondes alors qu'elle émet dans la bande FM. Donc, pour augmenter les chances de réception d'un signal, il faudrait écouter sur une très large bande de fréquence. Toutes ces contraintes techniques font que le programme SETI a connu des hauts et des bas en fonction des financements qu'il pouvait réunir. Enfin, il faut analyser une énorme masse d'enregistrements, et cela nécessite soit des ordinateurs très puissants, donc très coûteux, soit une myriade de petits ordinateurs. Et si nos auditeurs veulent participer activement à cette recherche d'une civilisation extraterrestre, ils peuvent s'abonner au projet qui s'appelle SETI Atom, hein, le at, c'est le arrobas des adresses mail, qui va utiliser leur ordinateur connecté à Internet, bien sûr quand ils ne s'en servent pas eux-mêmes, pour lui faire analyser quelques fragments de cette énorme masse de données à exploiter. À côté de la recherche d'un signal radio, il existe d'autres variantes du projet SETI, dont la possibilité de détecter des éléments technologiques, dont par exemple le signal artificiel produit par le transit de forme géométrique devant une étoile, et ça s'appelle SETI Transit. C'est le commencement de mon histoire, le signal, où j'explique tout ça au lecteur qui n'a pas besoin de connaissances particulières pour la comprendre, mais sera ensuite entraîné vers des spéculations de bon cru sur ce qu'une telle détection pourrait entraîner dans l'avenir des hommes. Pour conclure sur cette facette un peu moins orthodoxe de la science, on peut constater qu'à côté de la très grande rigueur de la recherche et des découvertes scientifiques, il y a aussi place à l'imagination pour extrapoler à partir des connaissances acquises, notamment en astronomie et cosmologie, avec le modèle du Big Bang, la découverte des exoplanètes, ou les concepts obscurs comme la matière noire et l'énergie sombre dont j'ai parlé le mois dernier. Même si ce n'est pas sa mission principale, la science est là aussi pour alimenter l'imaginaire des écrivains et des artistes, comme elle a toujours fait au fil de l'histoire des hommes.
Allez, toujours dans le cadre de votre 30e chronique astro, le ciel du mois, et vous allez commencer par la voûte céleste et les constellations.
Voilà, comme je l'ai déjà dit ces derniers mois, il faut profiter de l'hiver pour observer le ciel, car on peut admirer la voûte étoilée sans avoir à veiller très tard comme en été. Fin mars, le week-end du 25 au 26, pour être précis, on passera en heure d'été. Il faudra ensuite veiller une heure plus tard pour attendre la nuit noire. Ces jours-ci, le soleil se couche un peu avant 19h, il fait bien noir dès 20h. Fin mars, ce sera vers 20h30 pour le coucher, et donc la nuit noire n'arrivera que vers 21h30. Pour les constellations, le plus simple est de consulter les cartes que nous mettons en ligne sur notre site web. Je rappelle, www.constellationsetgalaxies.org. Il y a une partie astronomie dans laquelle on trouve le ciel du mois avec les cartes. En début de nuit, c'est le ciel de l'hiver qui se trouve côté sud avec sa figure centrale Orion, bien reconnaissable à sa silhouette humaine, et toutes les grandes constellations qui l'entourent sont repérables à leurs étoiles les plus brillantes qui forment comme un grand G. On appelle ça le G de l'hiver. On aura une description plus détaillée en se reportant à la chronique du 28 décembre, qu'on peut, je pense, encore trouver sur le site d'O2 Radio et sur le site de Constellations et Galaxies. En ce moment, Orion est plein sud au début de la nuit noire, vers 20h. Fin mars, elle sera déjà un peu vers le sud-ouest, à 21h30, quand il commencera à faire nuit, en train d'entamer sa descente vers l'ouest pour se coucher autour de minuit. C'est donc le dernier mois pour admirer le ciel de l'hiver. Il fait place progressivement au ciel de printemps, avec notamment la constellation du Lion, qui est bien reconnaissante, aux étoiles de sa crinière et de son poitrail qui forment comme une faucille dans le ciel, ou si on préfère, un point d'interrogation à l'envers. Fin mars, il sera déjà bien haut dans le ciel en début de nuit noire au sud-est. Actuellement, il finit à peine de se lever à l'est vers 20h.
Allez, toujours dans le cadre du ciel du mois, les planètes.
Alors en ce moment, c'est toujours la très brillante Vénus qui domine à l'ouest le ciel dès le crépuscule, mais comme elle a atteint son élongation est maximum le 12 janvier, c'est-à-dire son écart le plus grand par rapport au soleil, vers la gauche, si on peut dire, à l'est dans le ciel. Elle se rapproche progressivement du soleil dans les semaines qui viennent et son observation deviendra plus difficile à partir de la mi-mars à peu près. C'est dans la même période, vers la mi-mars, que Mercure, toujours difficile à observer en raison de sa proximité au soleil et de son éclat plus faible, fera son retour dans le ciel du soir, lui aussi en début de crépuscule. Dans le ciel du soir, un peu plus haut et un peu plus au sud que Vénus, on peut toujours apercevoir Mars, beaucoup moins brillant mais reconnaissable à sa couleur orangée. L'autre planète très brillante est Jupiter, qui se lève en ce moment après 22 heures et culmine au sud vers 4 heures du matin. Fin mars, elle sera déjà levée en début de nuit noire, et tout le mois, on peut la voir aussi le matin jusqu'à l'aube côté ouest. Beaucoup moins brillante, Saturne a fait son retour dans le ciel du matin en se levant vers 4 heures en ce moment, mais ce sera de plus en plus tôt dans les prochaines semaines et vers 3 heures, même un peu avant 3 heures à la fin mars.
Allez, dernière partie, les éphémérides.
Alors comme chaque mois, hein, si les auditeurs sont habitués, ce sont surtout des conjonctions de planètes avec la Lune, hein, donc les rapprochements dans le ciel de la Lune et des planètes. Les jours prochains, demain mardi 28 février jusqu'au jeudi 2 mars, le fin croissant de Lune passera le soir près de Vénus et Mars. Il sera sous Vénus le mardi, en formant un triangle avec les deux planètes, puis sous Mars mercredi, et enfin à gauche de Mars, c'est-à-dire à l'est, hein, si vous êtes rigoureux, jeudi, les trois astres étant alors pratiquement alignés. Il faudra attendre jusqu'au mardi 14 pour voir une grosse lune gibbeuse, hein, presque pleine, se lever près de Jupiter vers 21h30. Mais pour ceux qui ne veulent pas veiller trop tard, on pourra les voir encore à l'aube du mercredi 15 vers l'ouest, la lune à ce moment-là s'étant déjà un petit peu écartée de la planète. Le lundi 20, le dernier quartier se lèvera près de Saturne vers 2h du matin, mais là aussi le couple restera visible jusqu'au début de l'aube. Et le jeudi 30, le fin croissant passera de nouveau près de Mars en soirée. Alors, à côté de ces conjonctions, il y a deux rendez-vous dans le calendrier au mois de mars. Le lundi 20, ce sera l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire que le soleil passera au nord de l'équateur, nous faisant officiellement entrer dans le printemps. Et bien sûr, comme c'est inversé, l'automne pour les habitants de l'hémisphère sud. La nuit du samedi 25 au dimanche 26, nous passerons à l'heure d'été, en avançant nos montres à 3 heures, quand nous atteindrons 2 heures du matin. Alors je rappelle que ce rituel est lié aux économies d'énergie, en profitant des soirées plus longues sans allumer les éclairages, mais n'a rien à voir avec un phénomène astronomique, hein, contrairement à l'équinoxe.
Parfait Michel, regardez, juste avant de se quitter, hein, après cette 30e chronique astro, on va redire quelques mots, hein, sur vos ouvrages, ou les titres, où on peut se les procurer notamment.
Eh ben, les titres, donc il y en a deux, hein, qui est plus de fantastique et plus particulièrement de fantastique, inspiré par une visite que j'ai faite en Égypte dans les années 2000, hein, donc qui parle un peu de magie égyptienne, on va dire, qui s'appelle « La transition d'Edward Carter ». Et c'est celui dont j'ai un peu plus parlé pendant la chronique, qui est plus de la science-fiction et en rapport avec l'espace, hein, forcément, avec l'intérêt que je porte à l'astronomie, à la cosmologie et tout ça, qui s'appelle Stupid Design. Alors, ils sont édités chez Edilivre. On peut directement les commander chez eux. Sinon, les libraires peuvent aussi les passer en commande et on les trouve directement à commander sur des sites en ligne. Je sais pas si on peut les citer, mais ils sont bien connus. Hein, c'est Amazon et la Fnac.
Voilà, c'est dit, puis on va relayer sur de radio, bien sûr. Alors, rappelez constellationsetgalaxies.org, toutes les activités également menées avec votre association, Michel.
Alors, Constellations et Galaxies, c'est une association basée en Dordogne, hein, près de Mussidan, à Saint-Médard, pour être précis. Nous sommes actifs dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie, avec notre activité vedette, hein, principale, si je peux dire, qui est l'utilisation d'un planétarium itinérant, hein, c'est-à-dire une structure gonflable, qu'on peut amener dans les écoles, les collèges ou d'autres structures. Hein. Parfois, ce sont des associations qui nous invitent pour animer des soirées, par exemple. Ça permet, hein, il y a un projecteur spécial qui permet de voir le ciel exactement comme s'il faisait nuit, avec les étoiles, les planètes, et ça permet d'expliquer le ciel un petit peu, les constellations, ce que sont les étoiles, donner des idées des distances, de bien voir les mouvements aussi, hein, apparent du ciel, hein, qui correspondent au mouvement de la Terre, en réalité, sa rotation et sa révolution. Et à côté de ça, nous avons des activités, mais là, qui sont plus spécifiques de la Dordogne, de circulation d'exposition panneaux sur des thèmes de science dans les collèges et les lycées, hein, dans les centres de documentation, les CDI des collèges et des lycées de Dordogne. Voilà. Dans le site, on trouve toutes ces informations, hein, en particulier, si on regarde en haut de la page, il y a une série d'onglets, donc la partie planétarium pour avoir une idée, par exemple, de la place qu'il faut pour l'installer, de ce qu'on aborde comme sujet dans une séance, bien que ça puisse être modifié. Hein, je discute toujours avec les enseignants avant d'intervenir. Pour donner un exemple, juste après les vacances, là, la semaine prochaine, je dois intervenir à Léognan et le sujet, parce que c'est une activité interdisciplinaire qui mêle la physique, la science, disons, avec l'histoire, c'est de parler d'une nuit bien particulière. Je voudrais pas me tromper, mais je crois que c'était en février, mais 1480 quelque chose, 96 ou quelque chose comme ça, où Christophe Colomb a fait peur à des Indiens qui refusaient de lui amener du ravitaillement en prédisant qu'il allait faire disparaître la Lune. C'est un peu comme comme Tintin et le Temple du Soleil, parce qu'il savait qu'une éclipse de Lune allait se produire ce jour-là. Donc on peut faire des sujets un petit peu particuliers, pas toujours de l'astronomie, disons, générale. Pour les expositions, il y a un onglet exposition, mais ça concerne plus la Dordogne. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un onglet astronomie dans lequel on trouve des informations, en particulier le ciel du mois, les cartes qui permettent de se repérer un peu dans les constellations, etc.
Voilà, et tout cela via le site constellations-galaxies.org. Alors, au prochain rendez-vous, Michel. C'est vrai que là, on ne va pas expliquer pourquoi mercredi. On a décalé, mais c'est en fonction de l'actualité.
On peut le dire, c'est paramètres. On peut le dire aussi, c'est une autre actualité. C'est que depuis un peu moins d'un mois, je suis grand-père pour la deuxième fois d'une petite fille. Et alors que je devais venir normalement sur l'antenne d'O2, j'étais en fait chez mes enfants pour voir faire la connaissance de ce nouveau rejeton, si je peux dire ça comme ça.
Voilà, tout à fait. Ça, ce sont les bons moments de la vie. Allez, on se retrouve. Alors, j'essaie de calculer en même temps. Je crois que ce sera pour le dernier mercredi. Ça sera le 29, si je me trompe pas. En tout cas, dernier mercredi du mois. Il n'y a pas d'autres petits enfants.
Non, c'est même sûr que c'est le 29.
Voilà.
C'est même sûr que c'est le 29 parce que comme le mois de février a 28 jours, on retombe sur les mêmes dates en mars.
Au mois
donc
de mars,
le 28 est un mardi. Le
voilà,
29,
mais j'ai tellement peur de
commettre un impair. Le 29, ce sera un mercredi. C'est bon.
En tout cas, voilà. Ben, on se retrouve, Michel, pour ce sera la 31e chronique astro et on relira notamment via Facebook vos deux ouvrages. Allez Michel, à très vite.